France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
5 ans après Garçon Chiffon, Nicolas Maury passe à nouveau derrière la caméra pour réaliser la série Les Saisons qui est disponible sur Arte. Il sera mon invité à partir de 13h. Et tout de suite, la table ronde critique du jour avec des mangas au menu pour vous aider à faire un choix dans la production annuelle d'albums. Les critiques vont vous donner leur coup de cœur de l'année 2025. On parlera donc du tome 1 des Guerres Invisibles de Marina-Lisa Komiya et de la série The Fable de Katsuhisa Minami qui compte 22 tomes pour l'instant. Vous écoutez les Midi de Culture, vraiment vous n'en ratez pas une. Et je vous présente ceux et celles qui vont m'accompagner pendant une demi-heure. Fausto Fasulo, fondateur de la revue Atom, co-directeur artistique du Festival d'Angoulême. Bonjour.
Bonjour Marie.
Pauline Croquet, journaliste au Monde, rubrique Pixel. Bonjour.
Rubrique Culture maintenant.
Rubrique
mais
Culture, allez. Oh, pardon.
Bonjour culture. Marie.
Et comme chaque vendredi, Carole Boinet, directrice de la rédaction de notre partenaire Les Inrecuptibles, qu'on retrouvera en fin d'émission. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les trois. Et on commence par le manga que vous avez choisi de recommander, Pauline Croquet. C'est un premier livre, si je ne m'abuse, le tome 1 des Guerres Invisibles de Marina-Lisa Komiya, paru chez Casterman en juin dernier et traduit du japonais par Anaïs Koechlin. On est en 1948 dans un Tokyo en ruine occupé par les troupes américaines. Et je vous laisse nous raconter la suite parce que c'est un petit peu compliqué.
Oui, c'est compliqué, c'est riche, c'est décousu, c'est polyphonique. En fait, les Guerres Invisibles, c'est tout simplement l'histoire d'un couple de jeune femme qui est séparée par la guerre, par les circonstances, par la société aussi de l'époque, et qui va tout au long de sa vie, qui va essayer d'avancer. C'est pas un récit d'émancipation, c'est un récit d'errance qui se passe entre le Japon puis ensuite aux États-Unis, puisque le tome 2, c'est un manga en 2 tomes, et le tome 2 va sortir là en janvier prochain. Et donc voilà, ces deux femmes en fait sont séparées par la vie, pensent toujours l'une à l'autre et vont essayer d'avancer comme elles peuvent, de survivre, de quitter un Japon en ruine qui ne fait que très peu de place aux femmes et encore moins aux femmes queer.
Et donc elles vont rencontrer l'une et l'autre, l'occupant quelque part, qui sont les soldats américains.
Oui, elles vont trouver finalement de l'aide et du soutien auprès de 2 soldats américains. Un premier, dont un des deux, est nippo-américain, puisqu'il a grandi dans un camp aux États-Unis. Et donc, il y a aussi ce récit de ces deux hommes qui est intéressant, qui à la fois ramène l'altérité à la maison, puisqu'ils épousent ces femmes-là, et puis aussi le combat intérieur de ce soldat nippo-américain qui est traversé par les 2 cultures qui s'interrogent et dont les parents sont très attachés au Japon, mais sont venus aux États-Unis et lui très attaché aux États-Unis, mais tout en ayant conscience qu'il est ostracisé en son propre pays.
Là, on parle vraiment aussi du parcours de Camilla qui est née aux États-Unis, c'est ça ?
Oui, Marina-Lisa Komiya, elle est née aux États-Unis, elle a passé une partie de sa jeunesse, elle a grandi jusqu'à l'âge de 7 ans aux États-Unis, et ensuite elle est rentrée au Japon, puisque c'est une personne qui est non-binaire, qui ne se genre ni au féminin ni au masculin. Et donc voilà, c'est vraiment aussi de l'expérience personnelle, ce récit de cette double culture, de ce tiraillement, de comment on se sent étranger à chaque fois dans son pays d'adoption ou dans son pays dans lequel on vit. C'est quelque chose qui est travaillé dans ce manga de façon assez délicate à travers les différents personnages. Ce n'est pas catalysé par un seul des personnages, mais par l'ensemble, par ce casting de 4 personnes.
Alors pourquoi, entre tous les mangas que vous avez eu entre les mains, je pense qu'il y en a eu pas mal cette année, pourquoi celui-là en particulier ?
Alors déjà parce qu'on a chroniqué beaucoup tout au long de la saison, donc dans mes coups de cœur. Mais celui-là m'a beaucoup frappée. Je l'ai trouvé intéressant déjà le travail formel, parce qu'on est sur un manga en 2 tomes. Donc le premier tome se passe au Japon et utilise finalement le sens de lecture japonais. Mmh. On arrive aux États-Unis, on utilise le sens de lecture occidental, ce qui fait qu'on crée, ça crée une sorte de confusion, un état un petit peu comme ça, particulier, qui finalement est probablement l'état dans lequel sont les personnages. J'ai apprécié aussi le côté un peu brut du dessin. C'est un premier manga. On a affaire à une personne qui est artiste, qui a étudié la peinture, mais qui se met au manga pour raconter l'urgence de cette histoire, parce que il y avait une envie quelque part de travailler l'histoire et aussi de représenter, de revisibiliser des personnes queer qu'on oublie très souvent dans l'histoire et qui peuvent aussi amener à réfléchir sur leur condition aussi, la condition actuelle. Et donc ça, c'est très intéressant. Formellement, on a un trait encore un peu brut, un peu vert, un peu flou. Mais de l'autre côté, on a aussi quelque chose qui est assez bien mené. L'équilibre, par exemple, entre le récit sentimental, dramatique, d'un amour compromis, se contrebalance très bien aussi avec un récit quelque part politique, sociétal, intime aussi. J'aime beaucoup le côté récit de l'histoire, mais via le biais de l'intimité et des personnes. Tout ça est assez bien équilibré et on sent que c'est une personne qui s'est posé beaucoup de questions avant de coucher sur papier ce manga.
Fausto Fasulo, vous l'avez lu ?
Oui, moi c'est un titre que j'aime beaucoup. Effectivement, c'est un manga qui réfléchit de manière assez profonde sur l'identité. Et je pense que ce regard non-binaire à la fois sur l'appartenance nationale et sur l'appartenance à un genre est étroitement lié à la personnalité de Komiya, en fait. C'est-à-dire que elle l'explique d'ailleurs dans une postface qui est assez éclairante, cette espèce de sentiment un peu de déracinement, mais pas total, qu'elle a pu ressentir quand elle est revenue au Japon. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir la manière dont les auteurs de manga en fait traitent de cette période de l'histoire, puisqu'ils ont très logiquement un autre point de vue que nous, hein, ce sont les perdants, et elle le dit d'ailleurs dans la postface, mais elle le traite vraiment avec un regard, je dirais pas neutre, mais une sorte de transversalité comme ça, que j'ai trouvé vraiment, vraiment très saisissante, et le texte aussi est très beau. Alors après, c'est vrai que le lecteur francophone se base sur la traduction uniquement, la traduction par ailleurs est très réussie, et il y a une page que j'ai là sous le nez en fait, où on voit une jeune femme, une jeune prostituée qui vient juste d'être mise enceinte, et le texte c'est « Mon corps est sous occupation, c'est un territoire colonisé ». Et on a comme ça des espèces de saillies très très fortes en fait, et ça aussi je pense qu'il y a une dimension, j'irais pas jusqu'à dire littéraire, mais en tout cas le texte a son importance, même si elle ne pêche pas en assommant justement trop les lecteurs avec des monologues ou des espèces de plongées dans l'intériorité de ses personnages. Quand il faut uniquement passer par le dessin, elle sait le faire de manière assez impressionniste, et puis quand il faut un petit peu remuer avec quelques phrases choc, elle est aussi capable de le faire.
Tout commence en 1948, Tokyo est encore complètement dévastée,
oui.
En fait.
En fait, un des personnages, qui est Yuriko, une des jeunes femmes, en fait, revient à Tokyo parce qu'elle est partie en exil pour sauver sa peau, tout simplement. Et donc, sa famille a été décimée. Et donc, la seule personne qui lui reste, c'est son amour, c'est Haru. Et donc, quand elle revient dans son quartier, elle se rend bien compte qu'elle est partie. Et en fait, elle arrive à retrouver une lettre par l'entremise d'une voisine où elle lui dit... Ben voilà, je sais pas si t'es encore vivante, mais en fait, là, je t'attends depuis longtemps et je dois me marier, je vais partir aux États-Unis. Parce que de cet autre côté, Haru, en fait, quitte sa famille qui est assez sévère, qui est assez plutôt bourgeoise, de bonne famille, qui a envie de la marier de force. Et donc, voilà, on est sur un Japon à la fois troublé dans les familles, troublé dans la rue, tout simplement. La misère est à chaque coin de rue. C'est très bien montré, d'ailleurs, dans le manga. Et puis, en plus, les premières pages sont très fortes, puisqu'on a déjà des pages d'un bombardement, de personnes abritées. Et on a ce couple qui s'embrasse. On imagine apeuré, à la fois sans savoir ce qui va en être du lendemain. Et très vite, on est aussi plongé dans le quotidien de la guerre, dans les effets de la guerre, dans la vie quotidienne, y compris aussi des expatriés sur le côté américain. Dans le tome 2, ça c'est intéressant, des expatriés japonais qui vivent aux États-Unis, ça c'est intéressant. On voit aussi différents cas de figure. On a des gens qui sont regroupés en communauté, on a des gens qui se retrouvent plutôt perdus dans des campagnes et donc qui se retrouvent à être la seule personne asiatique à des kilomètres à la ronde. Donc tout ça est assez... voilà, il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de cas de figure. Cette mosaïque est assez impressionniste aussi, mais en fait donne à voir quelque chose d'assez riche, et finalement on approche d'une forme de justesse aussi sur les représentations sociales.
Fausto Fasulo.
Oui, puis c'est très documenté, on voit ces sources à la fin du livre. Il y a quelque chose qui m'a aussi interpellé en tant que lecteur un peu éclairé de manga, c'est que Komiya, elle cite un autre mangaka qui l'a aidé aussi d'ailleurs dans l'élaboration de son histoire, qui s'appelle Sansuke Yamada, qui avait dessiné une série formidable qui s'appelait Sengo et qui se passait dans le Japon de l'immédiate après-guerre, en fait, qui est une période qu'on connaît assez peu en fait en Occident. C'est vrai que toute la guerre du Pacifique, c'est quelque chose qu'on apprend quasiment pas en réalité, puisque quand on approche la Seconde Guerre mondiale, on l'approche sous un angle exclusivement européen, alors que pourtant son nom l'indique, c'est une guerre mondiale. Et c'est vrai que il y a quelque chose aussi de dans cette reconstruction historique de très sensorielle. Moi, j'ai eu la sensation parfois de pouvoir justement sentir des odeurs, entendre des voix. Elle arrive à rendre palpable en fait des choses qui auraient pu rester un petit peu abstraites ou très froides, parce que reconstitution historique, parfois on est un petit peu assommé par des dates, des événements. Et là, en fait, elle arrive à rendre justement une histoire qui est en fait assez épique, hein, en réalité. Elle arrive à la rendre palpable et intime, en fait. C'est cette espèce d'équilibre entre l'épique et l'intime qu'elle arrive très bien à manœuvrer.
Les guerres invisibles, donc c'est le tome 1 de Marina Lisa Komiya chez Casterman, traduit du japonais par Anaïs Koechlin. Et comme vous le disiez, Pauline Croquet, le tome 2 des guerres invisibles paraîtra le 21 janvier, toujours chez Casterman, évidemment.
この6年で71人やってる。特に今年は多かった。
で、次はいつ頃？
いや、しばらくは仕事は取らん。今年はやりすぎた。
On enchaîne avec votre conseil, Fausto Fasulo. Et c'est une série qui compte déjà 22 tomes.
Mais n'ayez pas peur.
Non, je n'ai pas peur, je vous fais confiance.
Ça se lit très bien, très vite.
Confiance absolue, The Fable de Katsuhisa Minami, c'est un manga à mi-chemin entre l'action et la comédie. Si j'ai bien compris, on suit un tueur à gages qui est ultra doué, mais à qui on va demander de jouer les hommes classiques, les citoyens lambda.
Tout à fait,
mais
oui,
chez
oui,
les Yakuza, ce qui donne un petit peu une ambiance intéressante.
C'est ça, c'est un tueur. Un tueur en série, pardon. Non, ce n'est pas du tout un tueur en série, c'est un tueur à gages. Mon esprit a brillé, excusez-moi. C'est un tueur à gages particulièrement brillant. On peut dire que c'est un artiste du crime à qui on demande de se mettre au vert pendant une petite année, histoire de faire redescendre un petit peu, retomber un peu la tension qu'il pourrait effectivement avoir autour de lui et éviter d'attirer les soupçons. Donc, c'est pas du tout un tueur à gages indépendant. Il est lié à une organisation qui s'appelle The Fable, justement. Et c'est l'un des chefs de cette organisation qui décide de le mettre en province, dans un bled fictionnel, dans lequel il va essayer de vivre une vie à peu près normale. Sauf que c'est très compliqué quand on est un tueur à gages de vivre une vie normale, surtout quand sa vie tourne uniquement autour de son activité principale qui est le crime commandité. Et en fait, The Fable suit ce personnage qui, de fait, évolue sous pseudo dans une ville fictive. Donc son pseudo, c'est Sato, c'est un des noms de famille les plus répandus au Japon, c'est un peu l'équivalent de Dupont, en fait, en France. Et il va essayer de se fondre dans le décor, sauf que c'est extrêmement compliqué quand on est un tueur à gages aussi doué que lui, de se fondre dans le décor. Et la grande force, en fait, partant de ce postulat, qui est un postulat, on va dire, de comédie, hein, la grande force de l'auteur, de Minami, c'est d'arriver à brosser une quantité de portraits autour de ce tueur qui sont tous assez savoureux, puisqu'il y a une sorte de tendresse pour... ces espèces de déclassés de province. C'est un grand manga sur l'ennui, en fait, The Fable. C'est-à-dire, à partir du moment où on vous coupe de votre activité principale, qui est votre vie, en fait, qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous pouvez rebondir? À qui vous pouvez parler? Et comment vous pouvez, d'une certaine manière, vous, non pas vous reconstruire, mais vous déconstruire? Et c'est un vrai manga aussi sur la déconstruction de la mythologie criminelle japonaise. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on pense au Yakuza, et on a entendu quelques voix qui sont issues de la fiction live, en fait, de The Fable juste avant, on pense à ces personnages qui sont extrêmement forts, avec des voix très graves, rocailleuses, des espèces d'héritiers d'une chevalerie un peu dévoyée comme ça. Et ce qui est intéressant dans The Fable, c'est la manière dont il va détourner en fait l'image de ces hommes pour les tourner en fait en ridicule, en dérision. C'est quelque chose qu'avait déjà fait par le passé Takeshi Kitano, par exemple. Je trouve que le manga partage effectivement quelques points communs avec Kitano, notamment dans la manière de raconter l'ennui, puis de raconter ce que font ces hommes qui, en vérité, font pas grand-chose, les Yakuza, et qui, suite à l'explosion de la bulle économique au tout début des années 90, en fait, se sont retrouvés un petit peu déclassés, eux aussi. Puis il y a eu des lois anti-gang au Japon qui ont effectivement pas mal nui à toutes les grandes organisations. Et de fait, ils ont été obligés un petit peu de se réinventer. Sauf que là, on voit que la réinvention, en fait, n'existe pas vraiment et qu'ils sont un petit peu comme des citoyens ordinaires, c'est-à-dire confrontés à la crise du travail, confrontés à l'ennui, confrontés à l'oisiveté. Et c'est aussi tout ça que va devoir affronter le personnage de Sato dans The Fable.
Alors Sato, qu'est-ce qu'il fait justement pour se déconstruire ?
L'une des premières choses, c'est qu'il va acheter un petit oiseau. Donc c'est un personnage en plus qui a une espèce d'aspect un petit peu primitif comme ça, qui se trimballe toujours cul nu. Dès qu'il est seul chez lui, il se trimballe nu en fait. Mais il le fait sans aucune volonté en fait d'exhibition. C'est juste. Et par ailleurs, il interagit parfois avec des personnages. Il est entièrement nu et effectivement, ça crée des scènes assez drôles puisque les gens lui parlent. Enfin, les personnages qui interviennent à ce moment-là lui parlent et sont absolument étonnés de le voir nu, alors que pour lui, ça ne pose absolument aucun problème. Il a une sorte de désinhibition comme ça totale vis-à-vis du corps. Et il a un petit oiseau, une sorte de perruche qui trimballe avec lui, qui traite très très bien. C'est quelqu'un qui a fait une fixette totale aussi sur un héros de fiction et dont il ne rate absolument aucun épisode du drama dans lequel il joue tous les soirs. Et puis, il va se trouver aussi une autre passion qui est celle du dessin. Sauf qu'il dessine de manière très très enfantine. C'est un petit peu de l'art brut en fait, en réalité. Donc, au fur et à mesure où la série progresse, le personnage évolue et voilà, il se découvre des hobbies. Mais rassurez-vous, il va continuer à avoir des activités assez musclées aussi, puisque chasser le naturel, il revient au galop. Et évidemment, comme on peut l'imaginer, The Fab n'est pas qu'une comédie. Il y a un moment aussi où les rouages du thriller reprennent et lui va devoir effectivement reprendre les gants, si je puis dire.
Pauline Croquet.
Alors moi, je traînais un peu les pieds pour lire ce manga. Je dois dire que ça m'a plutôt divertie.
Pourquoi vous traînez les pieds ?
Parce que j'avais un peu peur du format éculé sur la pègre, les yakuza. Oui. On a quand même pas mal de mangas en ce moment sur des tueurs à gages qui sont rangés des voitures, qui se sont reconvertis. Donc on avait déjà vu le format très très humoristique par ailleurs. Donc j'avais un peu peur du côté éculé. Puis finalement, je me suis assez laissé prendre au jeu. Et j'ai bien aimé le travail entre l'aspect adaptation sociale et instinct de tueur, quoi. Et vraiment, il y a un côté, il y a des scènes comme ça au début qui posent un peu le personnage où il commence à réfléchir que parce qu'en fait, on lui dit si on te découvre, on te bute, quoi. Donc il a vraiment aucun intérêt à ni à tuer des gens ni à se faire remarquer. Et donc il y a vraiment ce côté bon. Quelqu'un cherche à le taper dans la rue, à le tabasser. Et puis, il y a toute une mécanique qui se met en place en disant, alors, je vais peut-être ralentir le coup, je vais simuler, tiens, je vais recevoir un choc dans le nez. Donc, il y a aussi, il y a ce personnage à la fois très naïf, mais qui est quand même tout le temps en train de gamberger pour pas se faire remarquer. Donc, vraiment le travail entre les deux, il y a vraiment deux jambes entre le thriller et l'aspect très comique. On va retrouver des proximités, moi, je trouve, avec des mangas comme GTO, comme ça, où on a vraiment des personnages qui passent du côté très dramatique à un côté très naïf et très comique. Et c'est vrai que le reste du casting est intéressant. Donc, on a vraiment des gens assez basiques, d'une banalité confondante, mais toutes les interactions et toute leur façon, en fait, dans tous les dialogues, le mangaka, Minami, va leur donner vraiment une agentivité, va leur donner, enfin, tous les gens de second plan ont vraiment un rôle à jouer. Il y a vraiment un côté comme ça, social, collectivité, qui est assez intéressant en fait et qui donne vraiment à voir un peu cette classe moyenne basse, cette classe désœuvrée japonaise que j'ai trouvé assez chouette. Et on le retrouve aussi dans le dessin. Le dessin paraît très très basique en apparence, assez simple, notamment dans les décors. Et j'ai bien apprécié aussi le fait qu'on a des personnages qui sont très très bien qualifiés, caractérisés, mais derrière tout le travail, il y a beaucoup de travail de hachure pour donner du mouvement, de la texture. On le voit dans toutes les coupes de cheveux. Il y a un travail de précision qui est fait sur les coupes de cheveux, ce qui est assez marrant parce que je pense que c'est comme ça qu'on repère un peu les voyous. Il y a un côté un peu stéréotypé. Lui va leur donner de la texture, alors que par ailleurs, tout le reste de son travail de dessin est assez simple. Donc il y a une fausse simplicité chez Minami que j'ai trouvé très intéressante, qui m'a intriguée en tout cas et m'a donné envie de poursuivre.
Mm-hmm. Fausto Fasulo, pourquoi, même question qu'Apolline Croquet d'ailleurs, pourquoi parmi tous les mangas que vous avez lus, celui-là vous semble être votre préféré en tout cas pour nous aujourd'hui?
Bah parce que c'est un peu, parce que la série est encore en cours, là le premier arc, donc là c'est la fin du premier arc en France, hein, 22 tomes, et donc il y a un second arc qui est déjà sorti au Japon, qui va être publié en France. Bah parce que c'est un manga cheval de Troie en fait, c'est-à-dire qu'on s'attend effectivement au départ à lire une énième variation autour d'un personnage de tueur à gages et de la mafia, et puis en réalité c'est autre chose. Et même cette simplicité par exemple dans les décors que t'évoquais Pauline, moi ce que je trouve intéressant c'est que ça rend le récit, enfin le récit est très ramassé, si ça se passe entre 3-4 lieues pas plus, il n'y a pas vraiment de souffle quand les personnages se déplacent d'un endroit à l'autre en fait, c'est soit quelques centaines de mètres en bagnole, soit à pied, soit en vélo, enfin tout est extrêmement ramassé, une sorte d'effet de bulle un peu étrange, et finalement il y a assez peu d'action aussi. En réalité c'est vraiment un titre qui repose sur l'attente et l'ennui. Donc si on est prêt en fait justement à adhérer à ce type de proposition là, je trouve que le manga fait son office et est très très surprenant.
Et sur 22 tomes, comment ça se développe?
Bah ça se développe en fait de manière assez classique dans les histoires de yakuza, puisque comme on le sait, les organigrammes sont parfois assez complexes, des clans avec des associations de clans, des mésententes, des guerres de gangs. Donc en fait il va tout simplement élargir le spectre des antagonistes du récit, et les antagonistes vont commencer à interagir avec le personnage principal, et c'est comme ça qu'il va réussir à développer et à étoffer son intrigue.
Et puis tout simplement, il va tisser ses relations. Il va commencer à assez bien faire le job qu'on lui a demandé, à savoir s'intégrer. Et puis, ce qu'on a manqué de dire, c'est que quand on le met au vert, on lui dit ton assistante qui était ton chauffeur qui t'aidait sur tes missions, elle va partir avec toi. On va lui donner une fausse identité. Ça sera ta sœur. Et pareil, le duo fonctionne assez bien. Donc on a ce personnage assez beau. Elle est très maligne. Et en même temps très drôle aussi, parce que pareil, elle se comporte un peu,
c'est une alcoolique, mais qui tient tellement l'alcool en fait qu'elle éprouve une certaine jouissance à mettre au défi certains hommes qu'elle drague, en les poussant à boire bien plus qu'elle, sauf que eux terminent très souvent la tête dans la cuvette.
Donc voilà, c'est vrai qu'il y a aussi tout ce relationnel, et donc quand on s'atotit ces liens, ça enrichit tout ça. Et c'est vrai que c'est un manga sur l'ennui, sur la reconversion, sur l'examen de conscience, mais au final, on s'ennuie pas tant que ça, quoi.
Et le tome 2, parce que j'essaye de comprendre, l'arc sur 22 tomes, c'était quoi l'arc, là, en l'occurrence?
C'est l'arrivée, en fait, du personnage.
C'est son arrivée, son intégration.
C'est ça, exactement, ouais.
Et là, le deuxième arc, alors, ce sera...
Ça s'appelle The Second Contract, donc là, je ne vais pas commencer à spoiler si vous n'avez pas lu, on va voir, en tout cas, le personnage reprendre un peu ses activités malgré lui.
C'était donc The Fable de Katsuhisa Minami, une traduction du japonais par Jamel Rabahi. Et j'ai pas donné la maison d'édition parce que je l'ai pas sous les yeux.
C'est Pika Édition.
Voilà, merci beaucoup. On passe maintenant au jingle coup de cœur. Et c'est le coup de cœur de Carole Boinet.
Et oui, un nom à retenir cette semaine, celui du musicien français Jazz Lambeau. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'hésite pas à mettre la cornemuse au goût du jour. Oui, la cornemuse, je vous propose d'écouter. I wish they would call my name to live and love again. I spend money and I milk my brain, but I don't wanna leave the house. Sorry for my life, waiting like a feather in the corner. I think I'm funny when I lie. What if I go to America? Ce n'est pas Jazz Lambeau qui joue de la cornemuse, hein, précision utile, mais son acolyte, la bretonne Enora Morris. Jazz Lambeau, lui, joue de la guitare et compose sa musique principalement sur ordinateur. Alors une musique, comme on l'a entendu, très étrange, patchwork de nu folk, d'ambiante, de pop, de rock et de cornemuse donc. En début d'année, Jazz Lambeau a sorti sur le label à suivre Édition Grava, Music for Fools, compilation de 15 titres enregistrés entre 2022 et 2024. 15 titres aussi barrés et qu'angoissant, qui rappelle les meilleures heures joueuses et foutraques d'Ariel Pink. Mais attention, chez Jazz Lambeau, l'impression première de furieuse cacophonie, de tripes hallucinogènes pour Gremlins sous acide ou de manège lancé à 200 km/h sert un propos. Jazz Lambeau nous plonge dans une fantasmagorie made in USA. Ces morceaux lui ont été inspirés par un voyage aux États-Unis en 2018. Là-bas, il côtoie la scène underground new-yorkaise, est frappé par l'aspect sombre du pays. Il raconte aux médias en ligne Shape « J'ai rencontré des gens détruits psychologiquement, physiquement et financièrement par la ville et je m'aperçois que la même chose se produit en France avec quelques années d'écart. Il y a quelque chose en Amérique qui me semble maudit, monstrueux, mais aussi prophétique. » Fermez la parenthèse. Comme beaucoup d'adolescents français nés dans les années 80, Jazz Lambeau a grandi en écoutant de la musique américaine. Il cite le Velvet Underground, Fugazi, Television, Blink 182, Green Day ou encore Marilyn Manson. Dans son sud natal, il étudie la guitare électrique, joue du blues, puis en 2006, forme un groupe de rock avec deux amis que certains d'entre vous, chers auditeurs, doivent connaître, The Dodos. Et oui, The Dodos, qui va marquer la scène rock française née sur MySpace au mi-temps des années 2000.
Ça ne nous rajeunit pas.
Hein. Et oui, à partir de 2018, Jazz Lambeau bifurque en solo sous l'alias Jazz Boy, une sorte de grand voyage pop électronique hypnotique et déjà facétieux, comme la musique qu'il crée aujourd'hui, lui qui prend pour motif le bouffon du roi en guise de pied de nez face à l'impérialisme américain. Car il y a de l'humour chez Jazz Lambeau, peut-être même de l'ironie, du pastiche, du slapstick, et pourtant, cela n'empêche pas ses morceaux de créer une drôle d'émotion, la blague masquant à peine une fébrile anxiété face à la brutalité du monde. Alors la voix que propose Jazz Lambeau est aussi celle du collectif. Il s'entoure de musiciens, multiplie les collaborations, fréquente une bouillonnante scène française, composée, je cite, de Sega Bodega, Vicky Chéri ou encore Okelou, qui a marqué l'année avec son album Choke Enough. Okelou, qui l'a rejoint sur la scène de Playel, mardi 16 décembre, guitare en main. Le collectif, chez lui, ça fait du bien.
Merci beaucoup. C'était donc Jazz Lambeau qui sort un album là en ce moment, c'est ça?
Il est sorti en début d'année, c'est un gros coup de cœur, Music for Fools, au label Édition Grava.
Music for Fools, merci beaucoup Carole Boinet. Évidemment, toutes les références, toutes les infos sur cet album et sur les deux mangas dont nous venons de parler, c'est sur la page des Midi que vous voulez retrouver. Quel est le sommaire des Un Rock rapidement?
Le best-of où on retrace toute l'année, qui
vous
est
aussi.
Toujours en kiosque.
Voilà, qui est toujours en kiosque. Merci, merci beaucoup. Merci aussi Fausto Fasulo, Pauline Croquet. Bonne fête à vous. Et à bientôt.
Merci, Marie.
Restez avec nous, on se retrouve juste après ça.